On commence, comme à notre habitude, par la revue de presse des hebdos avec Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Alors Arlette, quoi de neuf au Canard Enchaîné ?
Eh ben, tu connais le surnom que le canard donne à Darmanin ?
Non.
Après le couac de l'accueil de l'Ocean Viking, tu ne connais pas, tu ne connais pas,
ah
ça te dirait. Le maladroit d'aide. Le maladroit d'asile. Le maladroit d'asile.
Très, très bon.
Ah ouais. Alors, voyons les sujets qui agitent les pages de notre volatile cette semaine. Le foot, le foot, le foot, la France est foutue. C'est du Guy Bedos dans le texte en 1986. Et le canard semble bien entonner le même refrain. L'édito qui, malgré un titre très footballistique, la FIFA multiplie fautes et coups pas francs, pointe davantage le Qatar, la FIFA, Macron et sa déclaration d'une parfaite fauculterie. Je cite Mtaz. Je pense qu'il ne fallait pas politiser le sport. Éric Mtaz s'emploie tout au long de cet édito à démonter cette allégation. Et en dessous, Doha de l'homme, un tiers de la une consacrée à cette Coupe du Monde, à ses coulisses. J'ai compté environ 8 dessins et petites chroniques tout au long des autres pages qui attestent du peu de goût du canard pour cet événement. Alors pas forcément du foot, le sport, mais de l'événement. Les autres sujets les plus mal traités, eh bien, les emplois peut-être fictifs de Madame Ex-Ciotti, la société privée militaire Wagner, la COP27 et bien d'autres sujets pour vous indigner et pour rigoler.
Et quoi de beau dans Télérama ?
Ben, tu as raison de parler de beau. Cette semaine, c'est le numéro spécial cadeau, avec des listes de livres, de disques, d'objets, de jeux, etc. 300 idées pour Noël, plus belles les unes que les autres. Si vous êtes en panne d'inspiration, c'est le bon numéro. Mais ça ne laisse pas beaucoup de place pour un autre sujet. Alors si, quand même, j'ai trouvé dans la chronique autrement un entretien avec David Le Breton. Le sujet d'étude de ce sociologue est surprenant. Le visage. Juliette Serre, qui l'interroge, a intitulé son papier « Le point sur la figure ». Point P-O-I-N-T.
Eh oui.
Le visage. Il change au gré de nos humeurs et des années. Le sociologue a étudié le rapport que nous avons avec notre visage, justement quand nous ne le reconnaissons plus. Ce visage familier ne nous avait jamais vraiment semblé changer au fil des années du fait de notre complicité quotidienne avec lui, jusqu'au jour où nos traits vieillis nous rappellent brutalement l'inéluctabilité du temps qui passe. Chacun assume plus ou moins bien le vieillissement de son visage. David Le Breton cite la grande comédienne italienne Anna Magnani, qui avant de tourner demandait à son maquilleur « Laissez-moi toutes mes rides, ne m'en enlevez pas une seule, j'ai mis toute une vie à me les faire ». Le rapport que les autres ont avec ce visage, il explique « À travers le visage, nous sommes nommés, reconnus, assignés à un sexe, un âge, une couleur de peau ». Il aborde aussi le sujet inquiétant de la reconnaissance faciale. Le titre de son ouvrage, si le sujet vous intéresse, « Des visages, une anthropologie et ses schémas métaillés ».
George Orwell disait « La misère a la capacité de rejeter le futur dans le néant. Le 1 s'empare de ce sujet dérangeant, la pauvreté. »
Oui, et d'emblée nous rappelle que plus de 10 millions de personnes en France, outre-mer compris, vivent sous le seuil de pauvreté, dont un grand nombre de jeunes et de mères isolées. Une portion plus grande encore redoute de glisser dans le piège de la précarité, à force de voir son pouvoir d'achat rogné de tous les côtés. Le tableau est sombre donc, mais ne doit pas pour autant pousser à la fatalité. Face à la pauvreté, des solutions existent. Ce numéro s'intitule « Ce qui fonctionne face à la pauvreté ». Ouais, mais enfin, avant de nous dire ce qui fonctionne, il faut bien dire que les intervenants pointent d'abord ce qui ne fonctionne pas dans notre système. Julien Damon, sociologue et spécialiste des questions de protection sociale, qui peste. Au-delà du chômage, il existe un grand brouillard sur ce à quoi on peut prétendre quand on a des difficultés. Même les experts ont du mal à s'y retrouver. Personne n'a donc une vue d'ensemble du système ? Didier Minot et Valérie M. dénoncent les dysfonctionnements systémiques à l'intérieur des caisses d'allocation familiale, liés notamment à la dématérialisation du système. Il s'agit bien d'un problème massif et systémique lié au moins trois éléments. L'algorithme de ciblage qui détermine les contrôles, les logiciels qui calculent les droits et les réductions d'effectifs dans les CAF. Didier Minot et Valérie M sont militants au sein d'un réseau d'associations et de personnes mobilisées sur les questions de justice sociale et environnementale. Hélène Singier, journaliste du 1, a rencontré Germaine Ndogami, arrivée de Centrafrique en 2011 pour rendre visite à ses enfants. Cette sexagénaire s'est retrouvée bloquée en France à cause de la situation politique dans son pays et de la dégradation de la santé de son mari. D'abord sans papier et sans ressources, elle est à présent allocataire du RSA et membre du groupe Mobilisation citoyenne du Secours catholique dans le Rhône. Elle confie. Être écoutée fait toute la différence. J'ai pu parler de tout. J'ai tout vidé. Ça m'a fait du bien. Il faut prendre soin du moral des personnes pauvres. Et puis, le reportage d'Anne Pouchant à Pontac, dans les Pyrénées-Atlantiques, où les Restos du Cœur se sont installés en toute discrétion depuis le début de l'année.
Mais alors, qu'est-ce qui fonctionne ?
Eh bien, il faut ouvrir le 1 sur le poster pour trouver les solutions qui existent et qui marchent dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ces solutions sont pour beaucoup d'entre elles apportées par les assos, comme par exemple ATD Carmonde. Mais l'État offre aussi des solutions bien souvent inconnues des bénéficiaires.
En couverture de courrier international, la photo d'une jeune fille allongée sur le bitume d'une rue. Le titre explique « Climat, la génération qui s'y colle ».
Et le sous-titre est encore plus clair. Des musées au bitume, ils multiplient les actions coup de poing pour alerter sur l'urgence climatique. Une radicalisation qui divise, mais qui s'explique aussi, estime la presse étrangère. Alors vous avez forcément entendu parler des actions de ces nouvelles associations, telles que Animal Rebellion, Stop Oil, particulièrement actif dans le jet de soupe à la tomate sur les vitres, protégeant le célèbre tableau de Van Gogh, Les Tournesols, à la National Gallery, et qui a remis ça avec un tableau de Monet à Potsdam, un autre Van Gogh à Rome. Et puis il y a aussi Dernière Génération en Italie et Extinction Rebellion, c'est un mouvement né au Royaume-Uni en 2018. Alors leurs actions n'ont pas vocation à détruire, puisqu'ils jettent sur des vitres. Hein. Ça ne fait pas de mal au tableau, hein, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais à accentuer la pression populaire sur les responsables politiques. Alors d'autres, comme Front de Libération de la Terre et Greenpeace, par exemple, ont choisi la voie légale, explique Akai Magazine. Depuis 2020, près de 500 procédures judiciaires liées au changement climatique ont été lancées dans le monde. Quant aux résultats de la COP27, le Financial Times déplore dans la rubrique « 7 jours du monde » « Quid des énergies fossiles ». Un accord en faveur de l'indemnisation des pays pauvres a été arraché in extremis en Égypte. Une façon de donner le change, alors qu'aucun engagement n'a été pris sur la réduction des énergies fossiles. Avant de refermer le journal, ne manquez pas la rubrique 360 degrés. L'article de Don Jones dans New Scientist sur la curiosité. Vous pensez bien connaître la curiosité ? Selon Dan Jones, c'est un état psychologique complexe qui est défini par la plupart des chercheurs comme l'appétit de connaître le monde et de rassembler des informations sur lui. Il nous déclare dans cet article sur les deux phases de la curiosité, à la fois vice et vertu.
Alors, selon l'Express, les États-Unis, grands gagnants de la guerre, c'est le sujet principal de l'hebdo cette semaine.
Alors, pas vraiment le sujet principal d'ailleurs, même si c'est le titre affiché en couve de l'Express. C'est plutôt l'opinion de Pascal Pogam. Il analyse et titre « Guerre en Ukraine » et à la fin, ce sont les États-Unis qui gagnent. Il précise « Les États-Unis ne perdent jamais l'occasion d'une guerre pour pousser leurs intérêts économiques. Il est temps que l'Europe s'en aperçoive et réagisse. » Il y a surtout urgence à quitter le monde des bisounours en concrétisant l'idée 100 fois formulée d'un Buy European Act qui protégerait les entreprises européennes d'une concurrence déloyale en leur réservant un accès privilégié à certains nombres de marchés. Plus loin, en page 22, Béatrice Mathieu renchérit. Gaz, armes, céréales, OTAN. Les États-Unis, grands gagnants de la guerre en Ukraine, que ce soit sur les fronts géostratégiques, énergétiques ou industriels, l'Amérique de Joe Biden est la grande gagnante du conflit en Ukraine. L'Express se penche aussi cette semaine sur Baba Hanouna. Gérald Bronner y consacre une chronique, catalysant tous les maux de la dérégulation du marché de l'information. L'animateur, s'avère, selon le sociologue, sidérant d'infantilisme. Ainsi que Chloé Morin, Hanouna Boyard, les deux en sortent renforcés, chaque héros soudant sa communauté. Alors si on pouvait éviter le mot communauté, on n'est pas aux États-Unis, ça m'agace. Et aussi Abdous Chalmani, qui consacre sa chronique au débat public qui se fait télé-réalité. Cyril Hanouna, Lady Diana, il est peut-être impossible de revenir en arrière, mais évitons au moins de participer au saccage de l'esprit critique en tentant de raviver le plaisir du savoir et de l'échange.
Et maintenant, l'horoscope de Rob Bresny qui s'adresse à la communauté, hein, Arlette, des natifs du Sagittaire.
Mais faut dire que Rob Bresny est américain.
Il a le droit.
Voilà, il a le droit. Étant lui-même Sagittaire, le rappeur et entrepreneur Jay-Z connaît bien les qualités et les travers de sa tribu. Tu vois, lui, il parle de tribu de communauté.
Dans tous les sens.
Voilà. Et ce passage de sa chanson « American Dreaming » nourrira tes réflexions du moment, Sagittaire. Il n'y a rien de mal à viser haut, il faut juste changer de cible. Il ne s'agit naturellement ni de renoncer à viser haut, ni de changer systématiquement de cible. Dans bien des cas, les objectifs que tu t'es fixés sont tout à fait raisonnables et largement à ta portée. Mais il ne te fera pas de mal de vérifier de temps à autre que tu ne te trompes pas de cible pour réaliser tes ambitions.
Campus Bodo, audiota.et.
88.et.
Campus Bodo.
.et.